Vous écoutez, on lit pour vous.
C'est à cette seconde-là que j'ai compris que c'était un guet-apens. Un texte de Quentin Dufresne, paru le 31 août 2024 dans la presse. Les deux guet-apens ciblant des personnes issues des communautés LGBTQ2+, à Sherbrooke, en août 2024, sont loin d'être les premiers à survenir au Québec. En juin 2023, le Grand Montréal a été le théâtre d'au moins 4 agressions de ce genre. Ce qu'il faut savoir. En juin 2023, le Grand Montréal a été le théâtre d'au moins 4 guet-apens homophobes. Des agresseurs utilisent de faux profils sur des applications de rencontres LGBTQ2+, pour donner rendez-vous à leurs victimes. Une fois sur place, ce sont en réalité plusieurs individus qui les attendent pour les agresser physiquement. Selon Statistique Canada, le nombre de crimes haineux visant l'orientation sexuelle a augmenté de 69% en 2023 comparativement à l'année précédente. Un homme raconte la soirée fatidique où il est tombé dans un piège tendu sur une application de rencontre. Il est 21h30, le vendredi 16 juin 2023, quand Jules, nom fictif, s'en va à sa date avec un dénommé Alex. Les deux hommes se sont rencontrés virtuellement quelques jours auparavant sur l'application Grindr. Ils avaient déjà essayé sans succès de se voir dans un parc de Châteauguay 3 jours avant. Au moment d'arriver à la Chine, Jules est loin de s'imaginer qu'il est sur le point d'être victime d'un guet-apens homophobe. C'était l'été, la température était bonne et j'avais l'esprit léger, raconte-t-il. J'avais une date, j'étais habillé, j'étais propre, je sentais bon, j'étais bien préparé, mais pas pour un guet-apens. À peine garé aux abords du parc La Salle, Jules s'empresse d'ouvrir son téléphone pour avertir l'homme avec lequel il a rendez-vous ce soir-là. La nuit a envahi les allées du parc et Jules ne voit personne. Je commençais à avoir un peu peur, se souvient-il. J'étais tout seul dans ce grand parc-là et je ne voyais pas ma date. Il demande donc à Alex de se manifester. Le clignotement d'une lumière de téléphone surgit alors d'un buisson dans un coin sombre du parc. Jules se met donc immédiatement à marcher en direction de celui qu'il pense encore être sa date. Une silhouette, différente de celle sur les photos du profil Grindr, sort alors des feuillages en souriant. Quand il est sorti du buisson et s'est mis à la lumière, tout d'un coup, au moins 2 personnes ont commencé à me frapper par derrière, raconte Jules. C'est à cette seconde-là que j'ai compris que c'était un guet-apens. Les individus s'acharnent alors sur Jules, lui assénant de nombreux coups au visage et aux côtes, tout en lui vidant les poches. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils m'ont frappé et je suis tombé au sol. Puis ils m'ont relevé pour me battre à nouveau et viser mon visage, raconte Jules. C'était la seconde la plus terrifiante de ma vie car je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou pas, ni dans quel état. Après s'être retrouvé une énième fois à terre, Jules saisit l'occasion pour prendre la fuite. J'ai couru de toutes mes forces. Au début, ils couraient après moi, mais ils ont lâché prise, explique-t-il. Je courais sans savoir où j'allais. Je ne savais pas si mes agresseurs allaient me coincer dans un autre coin de rue. J'étais sous le choc. C'est avec la lèvre inférieure lacérée, les mains ensanglantées et le pantalon déchiré, que Jules parvient ensuite à se cacher sur une terrasse non loin de là, en attendant l'arrivée de la police. Entre-temps, ses agresseurs ont pris la fuite et le profil d'Alex a disparu des diverses plateformes sur lesquelles les deux hommes avaient échangé pendant plusieurs jours. Des cicatrices invisibles. Pour éviter d'avoir un stress post-traumatique, Jules était dès le lendemain de retour au travail, malgré le manque de sommeil. Je n'ai pas pu dormir de la nuit qui a suivi, car j'avais des images de mon agresseur. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire de celui qui m'avait tendu le piège, raconte Jules. Les semaines d'après ont ensuite été rythmées par les crises de panique et la nervosité d'être de nouveau la cible d'une agression. Je ressentais du stress et de l'anxiété quand je promenais mon chien le soir, car j'avais peur que quelqu'un m'attaque par derrière, explique-t-il. Ça m'a pris quelques mois avant de dater. C'était des dates pour aller prendre un café dans un endroit public. Ce n'est que 4 mois plus tard que la police est parvenue à identifier et à arrêter l'individu qui lui avait tendu un piège. L'agresseur, un jeune homme de 17 ans, habitait chez ses parents dans une résidence de Châteauguay au moment de son arrestation. Un profil loin de celui sur Grindr qui mentionnait qu'il était majeur. Lui et ses amis m'ont tendu un piège pour s'amuser et se sont enfuis en pensant qu'ils allaient pouvoir s'en sortir indemnes, ajoute Jules. C'était un coup dur, peu importe la peine qui allait s'en suivre. Le jeune homme en question aurait été jugé en mars 2024. Selon le directeur des poursuites criminelles et pénales des PCP, il a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié et a reçu une peine de travaux bénévoles de 35 heures, ainsi qu'une probation de 12 mois avec un suivi de 9 mois. Il lui est également interdit d'avoir en sa possession des armes pour les 2 prochaines années. Ses complices n'auraient pas encore été retrouvés et l'enquête est toujours en cours. 3 guet-apens en 3 semaines à Châteauguay. À plusieurs kilomètres de là, la ville de Châteauguay était elle aussi le lieu de guet-apens ciblant des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Entre le 5 et le 21 juin 2023, le service de police de Châteauguay a recensé 3 événements similaires sur son territoire. Chaque fois, le même scénario. Plusieurs suspects, dont 2 jeunes hommes, ont tendu un piège à des hommes gays âgés de 20 à 30 ans qu'ils ont roués de coups. Les différentes victimes étaient toutes venues dans un lieu public en pensant retrouver un homme qu'elles avaient rencontré sur Grindr. En janvier 2024, l'enquête de police a permis d'arrêter un premier suspect, Helen Hamontene. L'homme de 19 ans a ensuite comparu au palais de justice de Salaberry de Valleyfield, où il a été formellement accusé pour les 3 événements distincts de vol qualifié, déguisement dans un dessin criminel et de harcèlement. Il a été libéré avec des conditions à respecter et devra comparaître de nouveau devant la cour. Selon l'agente aux relations communautaires et médias du service de police de Châteauguay, Nadia Grandin, de 2 à 6 autres personnes serait impliqué dans les 3 événements distincts survenus en 2023. L'agente Nadia Grandin invite toute personne qui aurait été témoin de ces événements à se manifester auprès des services de police. Consciente que de telles agressions existent, l'entreprise Grindr explique qu'elle répond et coopère avec les forces de l'ordre pour les aider dans leurs enquêtes sur les incidents. Comme pour tout réseau social et plateforme de rencontre, il peut arriver que des acteurs malveillants tentent d'utiliser ces fonctionnalités à mauvais escient, mettant potentiellement les utilisateurs en danger, explique un porte-parole de Grindr. Selon Statistique Canada, le nombre de crimes haineux visant l'orientation sexuelle a augmenté de 69% en 2023 comparativement à l'année précédente. C'est à cette seconde-là que j'ai compris que c'était un guet-apens, un texte de Quentin Dufresne paru le 31 août 2024 dans la presse.
La préadolescence, vrai phénomène ou invention des parents? Un texte de Laurence C. Germain paru le 26 juin 2024 dans Urbania. Lorsque je travaillais dans les écoles primaires auprès des jeunes de 5e et 6e année, j'étais toujours fasciné de constater à quel point ils avaient entre eux des écarts majeurs au niveau de leur poussée de croissance et de leur maturité émotionnelle. C'est une drôle de période, où ils sont trop jeunes pour être considérés comme des ados, mais trop vieux pour qu'on les traite comme des enfants. C'est alors que le terme « préado » a rapidement fait son entrée dans mon vocabulaire pour désigner cette espèce de période pas claire. Bref, est-ce que ça existe vraiment, la préadolescence, ou est-ce qu'on a juste inventé ce concept-là pour justifier les problèmes d'attitude? J'ai eu la chance de m'entretenir sur le sujet avec Sarah Hamel, psychoéducatrice et auteure du livre « Le Tipou d'Amérique » de 7 à 12 ans. Ça commence quand, la préadolescence? Selon Sarah, cette phase du développement se vit de 10 à 12 ans, mais peut varier d'un enfant à l'autre. Il faut garder en tête que le tempérament aura aussi un impact important sur sa manière de s'affirmer au cours de cette période. On qualifie souvent les comportements de préadolescents lorsqu'il est question d'actes d'affirmation ou d'attitudes qui vont à l'encontre des règles établies. C'est parfaitement normal, puisque la préadolescence, c'est l'amorce de la crise de l'adolescence, m'explique Sarah. D'un point de vue historique, il s'agit d'un tout nouveau concept. Comme l'explique Gordon Neufeld, psychologue canadien expert en développement et en attachement de l'enfant dans son livre « Hold on to your kids, why parents need to matter more than peers ». C'est seulement à partir de la Deuxième Guerre mondiale que serait apparue la sous-culture des jeunes, c'est-à-dire la surimportance des amis et le rejet de l'adulte, ce qu'on a éventuellement nommé la crise de l'adolescence. Les jeunes rejettent la culture des vieux et créent leur propre culture. C'est ce qui explique, entre autres, qu'on ait autant de difficultés à communiquer. Est-ce que ça arrive partout? Sarah précise aussi que la crise d'adolescence est un concept qui, dans plusieurs cultures, n'existe pas. C'est plutôt dans les pays industrialisés et surtout les pays occidentaux qu'on l'observe. Si notre société nous permettait d'élever nos enfants de plus près, on ne verrait que très peu de manifestations de crise d'adolescence. Certes, il y aurait la quête identitaire et le désir de devenir maître de ses décisions, mais le rejet de l'adulte, le repli sur soi et la surimportance des amis ne seraient pas la norme. En effet, le rôle de transmission que le parent doit remplir auprès de son enfant est nécessaire pour favoriser un contexte dans lequel il peut se déposer pour forger son identité et acquérir sa maturité affective. Toutefois, la sous-culture de l'adolescence actuelle ne permet pas cet échange, car les jeunes ayant un style d'attachement orienté sur leur père voudront rejeter les adultes significatifs et se tourner davantage vers leurs amis et les réseaux sociaux pour vivre cette phase de leur création identitaire. Dans notre société occidentale, on constate d'ailleurs que les enfants d'âge scolaire ne se tournent plus vers leurs grandes personnes significatives, et cela est problématique lorsqu'il est question du processus de maturation affective. Comme l'explique Sarah, la relation d'attachement avec un adulte significatif, c'est comme une bulle méga blindée dans laquelle l'enfant peut se montrer vulnérable parce qu'il est protégé. C'est ce contexte-là qui leur permet de devenir de futurs adultes matures et forts sur le plan de la santé mentale. L'attitude rochante, est-ce que c'est normal? Sarah affirme que oui, car il n'y a rien qui dit plus « je suis ma propre personne » que de faire le contraire de ce qu'on te dit de faire. C'est ce qu'on appelle la contre-volonté. C'est sain et c'est une façon d'apprendre à s'affirmer. Les pulsions sexuelles, les changements hormonaux et les sauts d'humeur sont aussi parfaitement normaux. Par contre, lorsque l'on parle de comportements plus inquiétants, comme s'isoler dans sa chambre ou ne plus vouloir aller en vacances avec sa famille, ça, c'est assez récent et ça ne peut pas être expliqué par la biologie ou par une phase développementale. Toutefois, pas de panique, ça peut arriver aux meilleurs parents du monde entier. Personne n'est à l'abri que son jeune ait un style d'attachement orienté vers les pères. Notre société fait tout pour que ça arrive. Si l'enfant est dans ce style d'attachement, c'est là qu'il va repousser les adultes qui vont vouloir prendre soin de lui. Il peut manquer de respect aux enseignants ou faire de l'attitude à ses parents en leur répondant. Comment accompagner les jeunes là-dedans? On aura tendance à penser qu'il faut donner de l'espace aux jeunes pour les laisser vivre cette période sans s'en mêler, alors que c'est tout le contraire. Comme l'explique le docteur Gordon Neufeld, le problème, c'est justement que les parents vont avoir tendance à capituler dans un moment où leur jeune a besoin de l'espace sécuritaire qu'une personne mature peut leur offrir, puisque la maturation affective d'un adolescent est encore loin d'être terminée. Sarah précise que si les parents souhaitent apprendre comment regagner le cœur de leur jeune, le livre « Hold on to your kids, why parents need to matter more than peers » est une référence béton qui explique comment favoriser une relation nourrissante avec votre enfant. Gordon Neufeld y donne aussi des pistes de solutions quant à la stratégie parentale à favoriser, l'impact du ton et des comportements sur la qualité du lien d'attachement et les méthodes disciplinaires à éviter car elles nuisent à la relation. C'était La préadolescence, vrai phénomène ou invention des parents? Un texte de Laurence C. Germain, paru le 26 juin 2024 dans Urbania.
Consacrer son existence à défendre la communauté 2ELGBTQI+. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 27 août 2024 dans le magazine Fugue. Martine Roy et ses collègues du Fonds Purge LGBT étaient présentes le jour du défilé de la fierté pour témoigner de la purge LGBT et du Fonds Purge LGBT. Après son renvoi des forces armées canadiennes à l'âge de 19 ans, Martine Roy, survivante de la purge et responsable du recours collectif mené par les survivants et survivantes de la purge, a consacré son existence à défendre la communauté 2ELGBTQI+ du Canada. En 2023, elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada pour son plaidoyer en faveur de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. Depuis, elle continue jour après jour ce combat. Elle a partagé avec nous son expérience personnelle vibrante, remplie de résilience et défend la place et les droits des communautés 2ELGBTQ+, partout au pays, grâce à un leadership tourné vers l'avenir. Une militante et défenseure de la diversité, de l'inclusion et de l'équité au sein des communautés. Martine, rappelle-nous ce qu'a été la purge LGBT entre 1950 et le milieu des années 90 au sein des Forces armées canadiennes et du gouvernement canadien. Entre les années 1950 et le milieu des années 1990, les membres LGBT des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale ont systématiquement fait l'objet de discrimination et de harcèlement. Nombre d'entre eux ont été renvoyés, conformément à la politique du moment et à une pratique sanctionnée. Dans ce que l'on en est venu à appeler la purge LGBT, des personnes ont été surveillées, soumises à des interrogatoires, maltraitées et traumatisées. La purge LGBT a été orchestrée aux plus hauts échelons du gouvernement du Canada et menée avec un mépris absolu de la dignité, de la vie privée et de l'humanité de ses victimes. Enracinée dans la guerre froide, la purge s'est poursuivie au gouvernement fédéral pendant plus d'une quarantaine d'années. Et quelques 9000 vies ont été brisées pendant cette période, entraînant un traumatisme psychologique toujours profondément ressenti aujourd'hui. La carrière et l'estime de soi de toute une génération de jeunes adultes ont été anéanties. Les victimes ont été privées d'avantages sociaux, d'indemnités de départ et de pension, et celles qui ont réussi à demeurer en poste se sont vues refuser toute possibilité d'avancement. Suicide, séropositivité, peur, dépression, troubles de stress post-traumatique, toxicomanie, désaveu, criminalisation, rejet, isolement, oblitération. Ce chapitre odieux de l'histoire canadienne s'est aussi soldé par de nombreuses expériences douloureuses qui perdurent. Quelle est pour toi l'importance de la fierté et de sa semaine d'activité au Québec? J'avais 32 ans quand j'ai participé pour la première fois à un défilé de la fierté. C'était en 1995 et j'habitais à Montréal. À cette époque, l'épidémie de sida nous arrachait des hommes magnifiques en quantité et mettait un terme à beaucoup trop de vie. Chaque mois, je perdais quelqu'un qui m'était cher. Parmi eux, mon meilleur ami René, qui est décédé en 1995. Alors que je pleurais encore la mort de René, j'ai décidé de participer au défilé de la fierté. Dans les nouvelles, on parlait sans cesse du sida. Tout le monde vivait dans la peur, la confusion et la douleur, comme avec la pandémie du coronavirus. Ces dernières années, les gens ont eu de la difficulté à comprendre la COVID-19. C'était la même chose à l'époque. Les fausses nouvelles au sujet du sida étaient monnaie courante et plusieurs avaient peur de l'attraper. Cette année-là, mes amis et moi avons décidé de participer au défilé de Montréal pour transmettre un message de résilience et d'espoir. Nous avons loué un corbillard et deux de mes amis, déguisés en anges avec des ailes, étaient assis sur le capot. Un DJ faisait jouer de la musique à plein volume à l'arrière et nous avions installé sur le toit des haut-parleurs sur lesquels nous avions peint les mots « Ce n'est pas fini ». Quand nous passions devant eux, les gens ne savaient pas s'ils devaient applaudir ou pleurer, mais ils lisaient le message, l'absorbaient et des sourires apparaissaient sur plusieurs visages. Ce défilé restera à jamais un des moments les plus mémorables de ma vie. Ce premier événement m'a montré que la fierté, c'est beaucoup plus qu'un défilé. Elle nous permet de souligner un moment de l'histoire, de célébrer tout le chemin que nous avons parcouru en tant que communauté, tout en reconnaissant et en comprenant collectivement que la lutte pour l'égalité est loin d'être gagnée. La fierté est un peu différente chaque année, puisqu'elle s'inscrit dans un moment précis de l'histoire. Cette année, comme de grandes pressions en provenance des groupes de droite ressurgissent un peu partout dans le monde, il est encore plus important de reconnaître que la fierté n'est pas seulement une fête, mais aussi un moment pour réfléchir, se montrer solidaire et se recentrer. Yves Lafontaine. On oublie parfois que l'homosexualité a été un crime au Canada, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Martine Roy. J'ai grandi à une époque où l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale et un crime au Canada. Ma mère n'était pas du tout à l'aise avec mon orientation sexuelle. Le mot homophobie n'existait pas encore. À 19 ans, je me suis enrôlée dans les Forces armées canadiennes parce que je voulais servir mon pays, et ce, même si la société ne reconnaissait pas tous les aspects de ma personne. Ma carrière militaire est rapidement devenue enrichissante, et j'étais fière du travail que je faisais. Jusqu'à ce que je devienne victime de la purge, qui existait bel et bien dans les Forces armées canadiennes. Une expérience qui m'a profondément traumatisée. Jusqu'à ce que je dépose, en 2016, aux côtés de Todd Ross et Alida Satalik, avec d'autres personnes ayant survécu à la purge LGBT, un recours collectif à l'échelle nationale contre le gouvernement du Canada. Yves Lafontaine. Ce recours a mené à une entente historique au Canada. Martine Roy. Oh oui! Cette entente historique est intervenue en juin 2018. On y prévoyait des indemnités totalisant 145 millions de dollars. De ce montant, jusqu'à 110 millions de dollars ont été réservés pour le paiement de dommages-intérêts aux victimes de la purge LGBT. L'entente affectait également de 15 à 25 millions de dollars à des mesures de réconciliation et de commémoration, une portion qui est désormais administrée depuis le Fonds Purge LGBT. Fonds Purge LGBT. Rappelons que le Fonds Purge LGBT est juridiquement tenu d'employer cette enveloppe pour des projets de réconciliation et de commémoration. Le tribunal lui a confié le mandat de voir à 4 grands projets. Créer un monument national à la mémoire des personnes LGBTQ2+, qui ont souffert de discrimination au Canada, y compris dans le cadre de la purge LGBT. Appuyer l'organisation d'une exposition muséale par le Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg. Se pencher sur la collecte, la préservation et l'accessibilité des documents historiques relatifs à la purge LGBT. Travailler avec le gouvernement du Canada pour mieux inclure les personnes LGBTQ2+, dans la fonction publique fédérale et améliorer la formation en ce sens. Info. Pour en connaître davantage sur la purge LGBT au Canada, visionnez le documentaire sur ici-tout.tv. Visitez le site web du Fonds Purge LGBT, lgbtpurgefund.com. Visitez le site web Monument National 2SLGBTQI+, monumentcoup-de-tonnerre.ca, monumentcoup-de-tonnerre.ca. C'était consacrer son existence à défendre la communauté 2ELGBTQI+. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 27 août 2024 dans le magazine Fugue.